France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei, Joséphine Reinhardt, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisé par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Alexandre Dang. Les médias internationaux, l'industrie culturelle, les universités, les fonds d'aide humanitaire, Donald Trump a entrepris d'attaquer systématiquement les institutions de la puissance douce, ce soft power auquel le père du concept, Joseph Nye, dit que le président actuel n'a simplement rien compris. Est-ce que Donald Trump n'a rien compris ou veut-il en redéfinir le contenu? Nous parlions hier des universités. Aujourd'hui, le cinéma Make Hollywood Great Again.
Nous avons mis un terme à la tyrannie des soi-disant politiques de diversité, équité et inclusion dans tout le gouvernement fédéral et, en effet, dans le secteur privé ainsi que dans notre armée. Et notre pays ne sera plus woke.
Je n'aime pas vraiment le terme « woke » parce que je pense que c'est un mot valise et que je ne suis pas sûr à 100% de savoir ce qu'il signifie. Et on pourrait dire que parfois il est utilisé à tort et à travers. Cela dit, notre objectif principal est de divertir. Et lorsque nous le faisons, nous essayons de le faire de façon responsable, nous essayons d'avoir un impact positif sur le monde. Mais la première chose que nous devons faire est de divertir.
Nous sommes dans une nouvelle période. On a fermé la porte à l'administration Biden, durant laquelle il y a eu une militarisation extrême des lois sur la communication dans notre pays.
Une militarisation des lois sur la communication, dit le directeur de la FCC, qui est l'agence de régulation des télécoms. Il s'appelle Brennan Carr et c'est un proche de Donald Trump. Ce qu'il dénonce ici, c'est le supposé corset qu'aurait imposé le gouvernement précédent à toute l'industrie du cinéma, comme si Joe Biden avait mis un pistolet sur la tempe des producteurs pour les forcer à plus de diversité dans le choix des acteurs et les histoires racontées. Inspecteur Harry, version démocrate. Si Hollywood n'a jamais été imperméable à la politique, s'il y a toujours eu des cinéastes de droite, des cinéastes de gauche servant une certaine vision du monde et de l'Amérique, le secteur dans son ensemble répond surtout, néanmoins, à une logique économique, industrielle, comme semble d'ailleurs le dire le patron de Disney qu'on a entendu juste après Donald Trump, celui qui dit ne pas aimer le mot « woke » et que son rôle à lui n'est que de divertir. Bob Iger se sait par ailleurs épié par la FCC, cette commission fédérale des communications qui a ouvert une enquête sur les programmes de diversité au sein de son entreprise depuis la dernière version de Blanche-Neige, incarnée par l'actrice latino-américaine Rachel Zegler. Alors là encore, certains aux États-Unis font le parallèle entre la politique de Donald Trump à Hollywood et la chasse aux sorcières du McCarthyisme, car celle-ci avait aussi touché le cinéma. Une photo comme symbole, celle de Charlie Chaplin par Richard Avedon en 1952. Chaplin a les cheveux blancs, il regarde l'objectif plein de malice dans les yeux et ses deux index au-dessus des oreilles. Il fait mine d'être le diable. Un avion l'attend, qui doit l'éloigner des États-Unis où il ne retournera que 20 ans plus tard. La politique actuelle a-t-elle déjà contribué à mettre des acteurs ou actrices, réalisateurs ou réalisatrices à l'index, contraint des diffuseurs à renoncer à certains programmes, réécrit des scénarios qui n'avaient pas encore de point final? Que devient cette usine à rêves censée contribuer à la puissance douce états-unienne? Nous en parlons ce matin avec nos invités. Bonjour Chloé Delaporte.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur à l'université de Montpellier Paul Valéry, spécialiste en études cinématographique audiovisuelle. Vous avez écrit une géopolitique du cinéma, de la mondialisation à la plateformisation, paru aux éditions du Cavalier Bleu il y a 2 ans. Et vous êtes depuis les studios de Ici Héros. Nachidil Rouaille, bonjour à vous.
Bonjour.
Et bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en géographie culturelle et politique, spécialiste des effets du cinéma sur l'influence politique et culturelle des nations. Nachidil Rouaille, des liens entre le monde du cinéma et Donald Trump, pour l'instant, on a surtout l'image, ou plutôt le son, d'un grand silence, comme le film de Sergio Corbucci, d'ailleurs 1968, pendant la dernière cérémonie des Oscars le 2 mars, le nom du président, son existence même, n'a pas été évoqué. Est-ce qu'il faut en conclure que le monde du cinéma est réticent à s'exprimer, prudent, indifférent?
Oui, je pense que le mot d'ordre, c'est la prudence, effectivement. Pour autant, je pense que ce silence est peut-être à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire que, oui, les Oscars ont quand même marqué ce silence et ont été critiqués hein, par beaucoup, justement, pour cette absence de politisation. Janvier et février, ce sont des mois où il y a beaucoup de cérémonies hein, autour du cinéma aux États-Unis. Et par contre, le silence a été moins assourdissant dans d'autres cérémonies. On peut penser, par exemple, à Jane Fonda, qui, lors des SAG Awards, a eu un discours qui était clairement politisé.
C'est elle qui a parlé de macartisme, d'ailleurs. Et c'est elle qui a parlé de macartisme. Et les SAG Awards, c'est les Screen Actors Guild Awards. C'est vraiment pour les acteurs à Los Angeles.
Ouais. Absolument. Donc effectivement, il y a ce silence-là de la part de beaucoup, et notamment des studios, et puis du coup des acteurs qui ne souhaitent pas se mettre les studios à dos. Pour autant, on voit quand même aussi des acteurs qui prennent le parti. D'ailleurs, ça a été le cas même avant l'élection de Donald Trump. Hein. Il y a des acteurs et des dirigeants hollywoodiens qui ont apporté leur soutien, leur voix et leur soutien financier à Kamala Harris. Hein. Une fois que Biden s'est retiré de la course, on peut penser à George Clooney, on pense à Julia Roberts, à Barbara Streisand. Enfin, on pense à beaucoup d'acteurs qui sont finalement aussi des acteurs qui sont pas de la nouvelle génération, qui sont pas les plus jeunes, qui sont peut-être des acteurs qui ont moins à perdre que beaucoup aujourd'hui. Donc ce silence est peut-être à comprendre aussi par rapport à ça, par rapport à ce que certains peuvent avoir à perdre.
George Clooney qui d'ailleurs en a fait les frais de ses critiques contre Donald Trump, qui lui a sorti la mitrailleuse ou l'arme de Rocky, c'est le Kimber Gold Combat pour parler de Sylvester Stallone, qui lui est beaucoup plus proche de Donald Trump, et il a dit sur son réseau que Clooney était un acteur de seconde zone, un commentateur raté, donc les acteurs en prennent pour leur grade quand ils s'expriment. D'autres ne mâchaient pas leurs mots pendant le premier mandat, Robert De Niro, Chris Evans, Jamie Lee Curtis. On dit quand même aujourd'hui que dans de très nombreux domaines, le deuxième mandat de Donald Trump ne ressemble pas au premier. Changement de degré quand ce n'est pas de nature. Et par exemple, ce Brendan Carr, donc le patron de la FCC, la Commission de Régulation des Télécoms, était déjà là sous le mandat de Donald Trump. Aujourd'hui, il est toujours là. Il ouvre une enquête sur Disney, une enquête sur les politiques d'inclusion de Disney. De quoi s'agit-il, Chloé Delaporte? Qu'est-ce qu'il s'agit ici de vérifier par une enquête?
Alors, l'enquête diligentée par Brendan Carr, mais à la demande de Trump, ne nous leurrons pas, vise officiellement à interroger la manière dont Disney mène ses politiques DEI, donc Diversity, Equity and Inclusion. La FCC est quand même alors une organisation, j'allais dire, pseudo-indépendante, en tout cas qui ne l'est plus beaucoup, qui ne peut pas faire non plus n'importe quoi. L'enquête en cours, elle vise la manière dont Disney, au sein de sa gouvernance propre, applique ou non ses politiques de diversité. Donc en termes de recrutement, de management, de RH, de ressources humaines internes, etc.
C'est plus ça que sur le contenu des films, en fait, ces mesures-là d'inclusion et de contre la discrimination.
Ils n'ont pas le droit constitutionnellement, la FCC n'a pas le droit de mener une campagne ou d'officiellement inciter Disney à faire autre chose sur le contenu de ses films. En revanche, personne n'est dupe. Quand Brendan Carr lance cette enquête, il s'agit bien en fait de faire comprendre à Disney qu'ils sont dans l'œil du radar et que, bien entendu, ce qui intéresse l'administration Trump, c'est pas la manière dont Disney gère ses ressources humaines, c'est la manière dont Disney conduit des narrations, confie des rôles à des acteurs et des actrices, etc. Donc il y a une espèce de, non pas de double discours, mais de discours officiel qui camoufle, mais sans que, encore une fois, personne ne soit dupe, des intérêts réels qui sont sur des enjeux de représentation.
Sur les ressources humaines, peut-être un tout petit mot, puisque les enquêtes ouvertes en ce moment concernent vraiment les politiques de diversité et d'inclusion menées par ces grandes entreprises depuis quelques années maintenant. Quand des entreprises comme Disney, Paramount, Warner Bros. Aussi font, par leur direction, circuler aujourd'hui des messages en interne aux salariés pour annoncer qu'il n'y aura plus de critères de genre, de couleur, d'origine dans les objectifs de recrutement. Est-ce qu'on peut imaginer, Nachid Ilrouaï, que c'est surtout de l'affichage pour faire profil bas, faire mine de auprès de Donald Trump, où il y a vraiment aujourd'hui des mesures qui sont prises pour renverser la vapeur ?
Non, mais effectivement, ce qui se dit, c'est que les politiques d'inclusion et de diversité, de toute façon, sont présentes, même si finalement elles ont été de moins en moins évidentes ces dernières années, enfin de moins en moins marquées. Pour autant, c'est quelque chose qui est rentré quand même dans la manière de faire d'Hollywood. Simplement, il va falloir être beaucoup plus précautionneux de la part de ces acteurs, enfin de ces acteurs. Je parle de Hollywood, des studios américains notamment, qui effectivement sont dans la ligne de mire, dans le viseur de l'administration Trump. Donc, il ne va pas y avoir de transformation radicale sur la manière dont on va mettre en avant, dont on va porter à l'écran des genres différents, des sexualités différentes, des races différentes. Pour autant, ça va être probablement plus discret, ou en tout cas fait avec plus de... Oui, un petit peu plus de difficultés de la part de certains studios, mais plus effectivement côté RH que dans les représentations. Moi, je pense pas véritablement qu'il y ait une transformation radicale des représentations dans les 4 années qui viennent.
Alors, on aura le temps de parler, peut-être d'entendre aussi certains extraits de films pour voir comment l'industrie du cinéma se met ou pas au diapason de ce qu'elle pense être la nouvelle donne et les nouvelles attentes qu'on aurait d'elle du côté du gouvernement Trump. Peut-être pour parler de façon plus prosaïque dans un premier temps, comme on considère l'industrie du cinéma comme une industrie en tant que tel et un outil de puissance 12, de quels moyens aujourd'hui de pression dispose l'État fédéral américain dans l'industrie du cinéma qui ne fonctionne pas comme en France avec le rôle central du CNC dans l'attribution de financement. Aux États-Unis, le cinéma, ça reste majoritairement privé. Chloé Delaporte, de quels moyens de pression aujourd'hui peut user Donald Trump pour parvenir à ses fins ?
En rompant l'écoute qu'il peut avoir des demandes d'un certain nombre d'acteurs socio-économiques principalement. Les studios ont besoin d'être soutenus par la puissance publique, même si c'est pas en termes de financement ou de subventionnement public, mais parce que avoir l'écoute de l'administration Trump, ça permet aux acteurs socio-économiques dominants, donc à l'oligopole de l'industrie, vous avez cité Warner, Paramount, Disney, etc. Disney, ça reste, ces dernières années, le premier distributeur de films sur le marché hollywoodien et d'ailleurs aussi dans la plupart des marchés internationaux. L'objectif de Disney, c'est de garder cette écoute de l'administration Trump. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de peser sur les politiques publiques nationales, mais surtout de peser sur la politique commerciale états-unienne à l'international. L'industrie hollywoodienne, elle fait plus de 70%, 73% de ses recettes sur les marchés extérieurs. Donc ce qui intéresse Disney, qui est particulièrement concerné par l'importance du marché international, c'est d'avoir l'écoute et l'oreille attentive du président Trump pour que son avis et ses intérêts soient protégés à l'international, notamment sur le marché chinois, mais on en reparlera peut-être.
Oui, donc être protégé contre toutes les barrières au commerce qui se mettent en place, même si en réalité les taxes douanières instaurées par Donald Trump ont occasionné des mesures de rétorsion par les pays concernés qui peuvent aussi affecter l'industrie du cinéma. Vous vouliez à ce sujet, Nachid El-Rouahi, dire un mot ?
Oui, effectivement, en plus de ces éléments-là, on peut aussi ajouter que l'industrie cinématographique américaine bénéficie également de programmes de subventions, notamment de la part des États. Il y a 37 États qui offrent des incitations à la production. C'est quand même des sommes qui sont pas négligeables. C'est quelque chose qui sert aussi l'industrie cinématographique. Donc un arrêt brutal de ces subventions ou de ces aides allouées, parce que il y a également eu des aides, notamment des crédits d'impôt, ce genre de choses qui ont été allouées suite à la crise qu'a vécu ou les crises à répétition qu'a vécu l'industrie américaine. Je pense évidemment au Covid-19 qui a largement ébranlé l'industrie. Ensuite, il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs. Après, il y a eu les incendies à Los Angeles.
Qui ont aussi nuit à Hollywood.
Absolument, ça a eu un impact direct sur cette industrie. Et donc, suite à ça, et dans ce cadre-là, il y a quand même eu des aides apportées par les gouvernements fédéraux par le gouvernement fédéral et par les États. Et effectivement, les studios comptent aussi sur ces aides-là, sans compter, alors je suis tout à fait d'accord sur l'oreille attentive du gouvernement de Washington, et également les aides pratiques. Washington et le Pentagone participent à la réalisation directe, mais en tout cas donnent des conseils, parfois sur un grand nombre de films, par exemple. la CIA qui peut s'investir sur des films d'espionnage, le Pentagone qui peut mettre à disposition des tanks, des chars, des hélicoptères, ce genre de choses. Donc c'est pour Hollywood, c'est quelque chose quand même d'important, c'est-à-dire que c'est des ressources qui sont précieuses. Ne plus les avoir, ça peut être un vrai poids.
Ces entreprises dépendent aussi du bon vouloir du régulateur américain, la FCC, la commission de régulation des télécoms, dont vous nous disiez tout à l'heure, Chloé Delaporte, qu'elle n'était pas aussi indépendante que son statut voudrait le faire croire, puisque à la tête de cette institution aujourd'hui, c'est vraiment un proche de Donald Trump qui met des enquêtes à tout va pour voir comment l'industrie du cinéma se comporte avec ses politiques de diversité. On entend bien donc que cette industrie du cinéma en est dépendante pour les projets de fusion en cours, par exemple, qui dépendent de l'approbation de ce régulateur américain. Des moyens de pression qui peuvent d'autant plus faire mouche, Chloé Delaporte, que l'industrie américaine du cinéma ne va pas très bien, comme le disait Nachid Ilrouaï. De quel chiffre dispose-t-on pour, à l'appui de cette affirmation, que l'industrie du cinéma américain n'irait pas très bien ?
Eh bien, on dispose de très peu de chiffres, puisque depuis début 2022, la MPA, donc la Motion Picture Association, qui est le principal lobby, ne publie plus de chiffres. C'est directement corrélé au fait que les acteurs des plateformes du streaming ont intégré la MPA au tournant des années 2020. Ils occupent certainement un poids non négligeable dans l'économie du film hollywoodienne et on n'a plus de chiffres officiels, en tout cas publiés par la MPA. Les derniers chiffres dont on dispose, c'est 2021. C'est aussi en soi un indice de l'idée que les chiffres ne sont pas très très bons. Si les chiffres étaient très très encourageants, vraisemblablement la MPA les donnerait. Alors on connaît la réticence des acteurs du numérique à publier leurs données, donc c'est aussi certainement une des raisons, mais l'autre est certainement le fait qu'on a une baisse des entrées en salle et des remontées de recettes au box-office. Donc il ne faut pas non plus tenir un discours catastrophique, hein, tout va très bien. Après, si on compare l'industrie cinématographique à d'autres industries, par exemple aux jeux vidéo, on est sur des montants incomparables. Hein. C'est, en termes économiques, d'une certaine manière, c'est peanuts quand même par rapport à d'autres secteurs économiques, si on veut être honnête. Mais c'est pas la meilleure période pour l'industrie hollywoodienne. On est dans un moment un petit peu de bascule, de réorganisation du marché, notamment en raison du développement des plateformes. Donc, voilà, Trump joue aussi un petit coup de bluff, ou en tout cas l'industrie est dans un moment où ça bascule, je dirais, où ça peut basculer.
Quand j'ai fait Rocky, si vous vous souvenez, la première image était une photo de Jésus. Il était écrit « Resurrection AC Club ». J'avais trouvé une église qui avait été transformée en ring de boxe. Dans le film, l'image passe donc de Jésus à Rocky qui est frappé, et à ce moment-là, il est la personne choisie. Et c'est ainsi que j'ai commencé le voyage. Quelque chose allait se passer. Rocky allait se métamorphoser et changer des vies, tout comme le président Trump. Et je dirais juste ceci, et je le pense vraiment. Quand George Washington a défendu ce pays, il ne savait pas qu'il allait changer le monde. Parce que sans lui, vous imaginez à quoi ressemblerait le monde ? Devinez quoi ? Nous avons le deuxième George Washington. Félicitations !
De Jésus à Donald Trump en passant par Rocky et George Washington, imprévisible Sylvester Stallone qui, avec Mel Gibson et John Voight, ont été nommés ambassadeurs particuliers à Hollywood par Donald Trump. Quelle est leur mission exactement, Nachid Ilrouaï, quand Donald Trump les charge de rouvrir un âge d'or du cinéma à Hollywood? De quoi parle-t-il?
C'est très flou en fait, hein, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que bon, on voit bien l'objectif de Trump, nommer quand même ces trois acteurs, John Voight, Mel Gibson, Sylvester Stallone, trois acteurs fort vieillissants, trois hommes blancs, cisgenres, enfin il y a vraiment cette volonté de balayer ce qu'il considère être comme une industrie woke, hein, l'industrie hollywoodienne étant, selon lui, gangrénée par le wokisme, et donc des acteurs qui défendent une Amérique qui est une Amérique triomphante, une Amérique de l'ancien temps, une Amérique en fait du western, une Amérique de la conquête de l'Ouest presque, hein, si on veut revenir jusque-là. Le rôle de ces ambassadeurs, il est assez flou, et d'ailleurs les ambassadeurs eux-mêmes, par exemple Mel Gibson, personne qui l'a appris dans le tweet de Donald Trump. Donc il n'y a pas eu de discussion en amont sur un rôle, sur une stratégie précise. L'objectif étant de ramener finalement une sorte de valorisation de cette masculinité blanche au sein de Hollywood, avec une valorisation de ces productions-là. Alors, je pense, peut-être que Chloé Delaporte aurait un autre avis, mais je pense que c'est une nomination qui est beaucoup plus symbolique que véritablement performative, je dirais.
Oui, ils connaissent pas exactement leur rôle, mais ils sont habitués à improviser de toute façon ces acteurs aguerris. Chloé Delaporte, là-dessus, est-ce que vous avez un avis divergent de celui de Nachidil Rouaille sur ce rôle qu'ils ont, ces acteurs de l'ancien temps, comme le disait Nachidil Rouaille ?
Tout à fait, ma collègue. Je pense que le rôle est éminemment symbolique. Il s'agit vraiment de redorer l'image de marque. Enfin, je dis redorer en empruntant le registre et le vocabulaire de Donald Trump. Mais oui, c'est vraiment une fonction d'ambassadeur au sens symbolique. Et c'est un message qui s'adresse à la fois au public et à la population états-unienne et à l'international, justement, en prenant des acteurs qui sont très connus et qui ont une image connue et reconnue par-delà les frontières des États-Unis.
Alors, vous nous rappeliez bien tout à l'heure, Chloé Delaporte, que l'État fédéral n'a pas du tout à s'immiscer, ni cette commission des télécoms n'ont pas du tout à s'immiscer dans l'éditorial, entre guillemets, le sens des films, le contenu des films. Néanmoins, disiez-vous, personne n'est dupe et certains, peut-être, aujourd'hui, essayent de montrer de la bonne volonté, de céder aux pressions, comme on le disait hier, de l'Université Columbia, s'aligner ne serait-ce que parce que de leur plus ou moins bonne volonté à se prêter à des signalements dépend la défense de leurs intérêts par Donald Trump lors des discussions notamment avec l'Europe, la réussite de leur projet industriel en cours type projet de fusion. Comment est-ce que cela ou pas commence à infuser dans les films produits, dans les films diffusés, dans le choix de certains acteurs, actrices? Qui veut répondre? Allez-y,
ma collègue qui est plus spécialiste de ces éléments.
Nachidil Rouaille.
Alors, sur ce point, il est encore tôt. Hein. On sait bien que les productions américaines, enfin, une production cinématographique met du temps avant de sortir, et l'élection de Donald Trump est récente. Pour autant, effectivement, on peut. Alors, vous aviez évoqué en introduction l'échec, par exemple, de Blanche-Neige au box-office américain. Blanche-Neige qui est portée par l'actrice Rachel Zegler, donc effectivement latino-américaine.
J'ai pas parlé d'échec, mais en effet, là-dessus, les articles, les critiques sont très divergents. Certains parlent d'échec, d'autres de succès. C'est un petit.
Non, mais c'est si plutôt un échec quantitativement parlant, effectivement. Ouais. Ça n'a pas été un franc succès au box-office. Et puis, on peut aussi penser à La Petite Sirène, si on reste dans l'univers Disney, qui avait été interprétée par une actrice afro-américaine. Et pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de critiques de la part d'une certaine sphère. De certains spectateurs plutôt du côté de l'extrême droite, hein, et de courants réactionnaires qui voyaient ça d'un très mauvais œil que cette sirène soit interprétée par une femme noire.
Halle Bailey.
Ceci étant dit, on peut voir aussi, par exemple, le succès d'un film comme Wicked, qui est le cinquième plus gros succès au box-office mondial en 2024, qui est une comédie musicale réalisée par John Chu avec Ariana Grande, Cynthia Erivo, donc une latino-américaine, une afro-américaine qui porte ce film-là dans l'univers du magicien d'Oz. Et donc, finalement, je pense qu'il n'y a pas de... les représentations... En fait, un film rencontre ou non son public, et les critiques et les procès en wokisme ont aussi été faits à Wicked, et pour autant, c'est un film qui a rencontré un franc succès. Donc, sur ces évolutions-là, alors il est certain que certains films vont être affectés. On peut penser à The Apprentice, le film justement sur Donald Trump, sur la genèse, disons, de Donald Trump.
Un film d'Ali Abbasi et qui, celui qui tient le rôle de Donald Trump, c'est l'acteur Sebastian Stan, qui dit que plus aucun acteur ne veut s'afficher à ses côtés dans les émissions de télé parce qu'ils ont peur d'avoir à parler de Donald Trump.
Exactement. Et il a déploré ce silence d'Hollywood, justement, Sebastian Stan. Et ce film-là a eu énormément de difficultés à sortir, à être diffusé. Et d'ailleurs, c'est un échec. Pourquoi ? Mais parce que derrière, on a aussi Donald Trump qui menace de procès, qui veut intenter, voilà, et qui a un arsenal juridique avec lui. Donc, effectivement, il y a ce risque-là, mais que je ne pense pas être si si important. C'est-à-dire que je pense que il y a un public. N'oublions pas que Hollywood est avant tout une industrie. Et que l'objectif d'une industrie, c'est de rencontrer un public. Et il y a un public pour ces films et ces séries beaucoup plus progressistes. Et je ne crois pas. Alors, je pense que ça va être plus difficile à produire dans les 4 années qui viennent. Pour autant, je pense pas qu'il y a un coup d'arrêt brutal. Et on peut le voir sur les grands succès, notamment sériels. Alors plutôt côté plateforme que industrie cinématographique Hollywood, mais je pense sur Netflix à la récente série animée Arcane, par exemple, ou tout récemment, là, The Last of Us saison 2 qui sort sur Max et donc qui reprend le jeu vidéo. C'est plutôt des séries et des films, enfin des séries qui portent un discours progressiste ou en tout cas qui incarnent la diversité.
Nachida El-Rouhia, il y a les deux en fait. Il y a à la fois des films et des séries qui continuent à afficher ces images-là et d'autres qui font exactement l'inverse, y compris sur Netflix avec un film biblique qui a eu un succès très récemment, Marie, sur l'histoire de Marie. Il y a eu aussi la Maison de David sur Amazon Prime, House of David, des frères Erwin qui se définissent eux-mêmes comme cinéastes chrétiens. Chloé Delaporte, vous vouliez intervenir.
Non, je rebondis juste sur l'idée. Depuis le début de l'émission, on mobilise l'expression « silence de Hollywood » comme si c'était une donnée. Ça me paraît quand même à nuancer. Hollywood n'est pas si silencieux que cela. Certes, on prend l'exemple des Oscars. Alors, on nuance avec le discours de Jane Fonda au SAG, mais enfin, qui était quand même assez consensuel. Hein. Elle n'a pas appelé à la révolution communiste. Donc, c'était quand même un discours, d'une certaine manière, assez convenu. Hollywood n'est pas si silencieux que cela. Notamment parce que la MPA, dont je parlais plus tôt, s'est positionnée en faveur d'un soutien à l'administration Trump et a répondu, doigt sur la couture du pantalon, aux demandes du secrétaire au commerce américain. Donc, il y a un silence de façade de Hollywood qui est incarné par les acteurs et actrices qui protègent leurs intérêts, mais sur le plan plus, non pas secret, mais peut-être plus latent, Hollywood a quand même pris position, de la même manière que la DGA, la Directors Guild of America, qui a apporté à l'administration Trump à peu près la même réponse que la MPAA.
Alors, en effet, il y a à la fois ce qui se dit, ce qui se dit pas, et puis il y a ce qui sort, et notamment des films qui ont quand même plutôt du succès. Am I a Racist, c'est un film sorti l'année dernière, co-écrit par l'animateur de podcast conservateur Matt Walsh, et qui se moque des excès supposés des politiques anti-discrimination.
Let's be clear, what's happening in this country, it's Nazism. Republicans are Nazis. You cannot separate yourselves from the bad white people.
Growing up in the 90s, I never thought much about race. Sure, you noticed, but never really seemed to matter that much. At least not to me.
Being a white, straight, cisgender man.
Il y a d'abord une femme qu'on imagine démocrate qui dit à un repas que les républicains sont tous des nazis. Ensuite, la voix off qui dit que pour lui, jeune adulte, hétérosexuel, cisgenre, dans les années 90, ces questions de race n'ont vraiment jamais compté. Et comme il veut comprendre ce qu'est le racisme pour savoir s'il est lui-même raciste, eh bien, il se déguise en homme de gauche, on va dire. Il se fait un petit catogan, il met des lunettes, apparemment. C'est ça l'homme de gauche, et il infiltre des associations antiracistes. Ces films-là qu'on peut, alors qu'ils sont qualifiés de conservateurs, d'autres rétorqueraient qu'il y a beaucoup d'humour. Enfin, voilà, je laisse juger chacun sur ces productions-là. Néanmoins, est-ce que on peut voir Chloé Delaporte se teindre les programmations? Tout à l'heure, Nachida El-Rouhia disait qu'on voyait beaucoup de productions encore progressistes. Mais comment vous voyez les choses peut-être se contrebalancer, s'annuler ?
Je pense effectivement qu'on ne va pas assister à une réorientation totale, radicale et franche de la production, ne serait-ce que parce que Disney, si on prend Disney pour exemple, mais même les autres studios, n'y ont pas intérêt. Leur intérêt est économique. J'allais dire avant d'être idéologique, ce qui est un peu trop rapide parce que l'économie, ou en tout cas le fait de faire passer l'économie en premier, est déjà un choix idéologique. Mais les intérêts économiques sont trop importants pour réorienter. Il y a une demande des publics, le principe de Disney et toute la stratégie de production, elle est quand même de cibler des publics en fonction de son âge et donc d'avoir des productions qui répondent à chacun des segments de marché triés par âge que la maison de production a identifié. Donc il ne va pas s'agir non plus de passer de l'autre côté de la barricade, j'ai envie de dire. C'est pas l'ambition et Disney n'y aurait pas intérêt. Donc il faut envoyer des signaux complaisants à l'administration Trump pour protéger ses intérêts. On a développé cela, mais il faut quand même garder le public de son côté, et donc les modifications vont, à mon avis, s'appliquer très très marginalement. Donc on a quelques exemples déjà là, de personnages qui auraient été changés, supprimés, etc. Mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça. Le vrai changement, il va se faire sur l'émergence ou l'empowerment, l'incapacitation de studios de production officiellement et ouvertement conservateurs, qui jusque-là étaient cloisonnés à une frange assez marginale.
Ouvertement conservateurs, ouvertement religieux aussi. Il a été question la semaine dernière dans Culture Monde de J.D. Vance et le catholicisme radical, la tentation réactionnaire. Il y a aussi les évangéliques qui constituent aujourd'hui 30% de l'électorat de Donald Trump. Est-ce que ces tendances politico-religieuses se font sentir aussi dans le cinéma américain, Chloé Delaporte ?
Oui, tout à fait. Ça prend une part de plus en plus importante. Il y a un cinquième de la population états-unienne qui se revendique et qui se réclame évangélique. Donc c'est un public important. Donald Trump flatte cet électorat, effectivement, qui a voté à 86% aux dernières élections pour Donald Trump. Donc c'est pas rien du tout en termes de poids électoral. Et on a des studios de production qui ont émergé dans les années 2010, liés aux évangéliques, mais liés plus largement à l'extrême droite ou la droite radicale américaine, des studios comme Angel Studio par exemple, qui produisent des films très radicalement conservateurs, anti-avortement, etc., avec des idéologies très, 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 très marquées, qui sont en train de prendre une place de plus en plus importante, par exemple en se déployant en tant que plateforme de streaming. Donc ce qu'on appelle, et ce que des collègues appellent le Godlywood, est certainement en train de se développer, et ça va en fait, à mon avis, beaucoup plus l'évolution, on va dire, idéologique de la production cinématographique, elle va beaucoup plus se déployer au sein de ce qui était encore des microstructures qu'au sein des studios et de l'oligopole de l'industrie hollywoodienne.
Le studio que vous avez cité, Angel Studio, a par exemple produit Sound of Freedom. C'est un film à très grand succès, avec une histoire somme toute vraie, celle d'un ancien agent du gouvernement américain qui a pour mission de démanteler un réseau de trafic d'enfants abusés sexuellement en Colombie. Alors je ne l'ai pas vu, je ne sais pas du tout comment les choses sont présentées, mais en tout cas les faits sont réels et chacun en juge encore une fois. Mais le film anti-avortement auquel vous pensez, c'est celui de la société Pureflix 2019, Unplanned, que la chaîne C8 en France avait d'ailleurs diffusé à son tour 2 ans plus tard, avec une scène de gens qui prient sur des barils remplis de fœtus, car il y aurait des barils remplis de fœtus pour ces réalisateurs.
I think faith and cinema are absolutely perfectly compatible.
Je crois que la foi et le cinéma sont parfaitement compatibles, car le premier acte de Dieu fut la création. Quand Jésus est venu sur Terre, il a transmis son message aux gens à travers des histoires. Il est le plus grand conteur au monde. Il y a des gens à travers la planète qui lisent les paroles de Jésus pour apprendre à raconter des histoires. Donc si vous associez la création au récit, le monde a commencé comme ça. Le plus grand modèle pour les chrétiens, c'est Jésus, le conteur. Pour moi, c'est une carrière vraiment passionnante. C'est la possibilité de raconter des histoires et d'être créatif.
Et on imagine bien que cette dame ne parle pas des Monty Python, extrait du documentaire pour Arte, le phénomène Godlywood. Quand l'Église fait son cinéma, diffusé en fin d'année dernière, Lobby, dont le réalisateur du documentaire dit qu'il a pénétré les plateformes Paramount, Disney ou Netflix. Néanmoins, Nachidil Rouaille, l'Église a toujours, je ne sais pas, mais en tout cas, très souvent, très longtemps, été présente dans l'industrie du cinéma aux États-Unis, avec cette liste d'interdits dressée en cooptation avec des producteurs et restée en vigueur jusqu'à la fin des années 60, le code Hays. Donc Hollywood avait son propre système de censure alors que personne ne lui avait demandé au gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord, Nachidil Rouaille, avec ce que disait Chloé Delaporte sur le fait que l'industrie du cinéma n'a pas non plus intérêt à se laisser totalement déborder par ces récits-là et que finalement elle va plutôt se fragmenter pour répondre à tous les publics plutôt que regarder dans une même direction?
Absolument, je pense que vraiment, on aperçoit aux États-Unis, mais pas que, une polarisation des opinions, une polarisation politique. Et Hollywood, en tant qu'industrie du divertissement, doit répondre à ses publics. Et je suis tout à fait d'accord. N'oublions pas, l'objectif d'Hollywood, il est effectivement, je pense, avant tout économique, avant d'être idéologique. Et de ce point de vue-là, il a besoin... Alors, quand je parle d'Hollywood, je parle plus largement là de l'industrie cinématographique et sérielle américaine. Et donc, j'y inclus aussi les plateformes. Et je pense que, de toute façon, ils ont besoin de répondre à cette diversité de public. Donc, il va y avoir des productions qui vont s'adresser à ces publics-là, alors qui seront probablement plus nombreuses qu'elles ne l'ont été, parce que ces publics-là sont aussi plus présents et font entendre leur voix de manière plus forte. On le voit évidemment aux États-Unis à nouveau, mais pas que, on le voit aussi beaucoup en Europe aujourd'hui. Mais les productions qui ont été à l'œuvre depuis les années 2010, je dirais, qui portent un discours beaucoup plus d'ouverture, de progressisme et d'inclusion et de diversité, ces productions-là, elles rencontrent aussi leur public. Et ce public-là a besoin d'avoir du contenu, et les grands studios américains le comprennent aussi totalement. Donc je pense effectivement qu'il y aura cette polarisation et finalement peut-être plus une diversification davantage qu'un frein ou un coup d'arrêt des productions qui existaient jusque-là.
De la même façon, il y a toujours eu à Hollywood des acteurs, réalisateurs ou producteurs de gauche ou de droite. Et je vois dans les articles aujourd'hui qu'on cite Mel Gibson et Clint Eastwood comme si c'était deux hommes identiques. C'est vrai que Clint Eastwood a plutôt soutenu Donald Trump ces derniers temps. Peut-être qu'il n'a pas vu ses propres films. Je ne sais pas comment on peut faire Un Monde Parfait, Grand Torino ou Million Dollar Baby et appeler à soutenir Donald Trump. Bon, ça colle pas trop, mais lui avait par exemple sur la politique étrangère américaine dans ses films, son diptyque Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima sur la Seconde Guerre mondiale au Japon, avait tenu à donner deux points de vue sur cette même guerre dans deux films différents, point de vue américain, point de vue japonais. Est-ce qu'on peut aujourd'hui déceler dans les projets de films en cours, les contrats, les productions nouvelles, une adaptation aussi à la nouvelle donne géopolitique? D'aucuns prédisent par exemple qu'on devrait voir moins de méchants russes dans les films des quatre prochaines années. Est-ce que c'est un peu caricatural? Est-ce que ça peut être une réalité, Nachidil Rouhaï, ou sur la Chine?
Alors effectivement, le cinéma hollywoodien s'est toujours adapté le cinéma de manière générale, a toujours été un reflet du monde et en même temps participe à produire ce monde. C'est-à-dire que à la fois il capte l'état général du monde et donc la géopolitique globale, mais en même temps, en produisant des représentations, il participe aussi à façonner ce monde. Il participe à façonner les représentations, mais aussi les opinions publiques, etc. Donc oui, on le voit au fur et à mesure des décennies, les méchants, par exemple, dans les films hollywoodiens, se transforme. Il est tout à fait probable que les méchants dans les années qui viennent se transforment à nouveau. Alors, vous parliez de la Chine, c'est vrai que le cinéma américain, par exemple, et puis plus largement l'industrie du divertissement et puis la littérature, a largement été traversée par la sinophobie depuis les années 1920. Et c'est quelque chose qu'on a largement vu disparaître au tournant des années 2000 à partir de l'intégration de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce et de la montée en puissance de la Chine. Et ça s'est encore amoindri à partir des années 2010 quand la Chine est non pas juste devenue une grande puissance mais aussi une grande puissance cinématographique. Et à partir de ce moment-là, les studios américains ont compris aussi l'intérêt de diffuser leurs films en Chine, un pays qui est soumis à des quotas importants et un pays fermé d'un point de vue de la production cinématographique. Et donc, pour pouvoir pénétrer ce marché-là, cette industrie américaine a commencé à produire des films plutôt très consensuels envers la Chine et envers le gouvernement chinois pour pouvoir effectivement avoir des entrées dans les salles de cinéma chinoises.
C'est quelque chose qui a beaucoup marché. Par exemple, en 2014,
oui, tout à fait.
Des agents du FBI corrompus et des agents chinois vertueux. La Grande Muraille aussi en 2016, une coproduction sino-américaine. Sauf que Chloé Delaporte, pour revenir à des considérations douanières que vous évoquiez tout à l'heure, tout ça peut être compromis par la politique douanière de Donald Trump, puisque la Chine aujourd'hui dit qu'elle va réduire la voilure sur les films qu'elle importait jusque-là des États-Unis.
Bien sûr, les États-Unis, là, dans le rapport de force entre l'industrie hollywoodienne et l'industrie chinoise, les États-Unis ont beaucoup plus à perdre que la Chine. La Chine est le premier marché extérieur d'Hollywood, c'est plus de 7 milliards de dollars par an. C'est un territoire considérable. La Chine, c'est 80 000 écrans, c'est 1,4 milliard d'habitants, d'habitantes, donc un marché possible, en plus en pleine expansion, énorme. Donc Hollywood, là, et en plus on le voit avec la réaction de Xi Jinping, Hollywood va y perdre beaucoup plus que la Chine. Donc, on attend de voir comment est-ce que la boue là va retomber après l'avoir agitée avec ces questions des tarifs douaniers. Mais voilà, vous citiez la Grande Muraille. L'enjeu aussi pour les États-Unis en coproduisant ce film avec Legendary Pictures, c'est de contourner les quotas qu'évoquait ma collègue. Il y a 34 films étrangers autorisés par an en partage de recettes en Chine. Dès lors que vous coproduisez avec la Chine, vous contournez ces quotas. Donc
Des intérêts économiques, industriels en jeu, davantage qu'idéologiques. C'est peut-être moins le cas dans les musées. Et Donald Trump a aussi là-dessus son avis à donner sur la programmation des musées. On en parlera juste après Arcade Fire et sa chanson Soft Power. Canadien Arcade Fire et sa chanson Soft Power qui date de 2013 où il dit notamment que le soft power entre dans nos cerveaux. Après les médias états-uniens à l'étranger que Donald Trump tente de démanteler parce qu'il serait trop à gauche, après l'université accusée d'être woke, le cinéma est l'outil de soft power, de puissance douce que le président américain veut remettre au goût de ses convictions. On en parle avec nos invités Nachid Ilroy et Chloé Delaporte. Certains musées aussi voient leur programmation reprise en main. C'est le cas de la Smithsonian Institution.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Ce pays est composé de toutes les races et toutes les cultures, et ils essayent d'effacer cela.
Je suis consternée de voir que notre président est activement en train de détruire la capacité des gens à s'éduquer, à s'ouvrir sur d'autres cultures et d'autres perspectives.
Des réactions recueillies par France 24 il y a quelques jours après que Donald Trump eut annoncé la reprise en main de la programmation de la Smithsonian Institution, un réseau culturel de 21 musées accusé de mener un endoctrinement idéologique. Bonjour Jean-Michel Taubelem.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sciences de gestion, habilité à diriger des recherches, professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi enseignant à l'école du Louvre. Pour commencer par cette Smithsonian Institution dont la programmation est reprise en main par le gouvernement, qu'est-ce que cette institution culturelle à but non lucratif, donc qui détonne dans un secteur, celui des musées dominé par le privé ?
Oui, c'est une institution très singulière, d'ailleurs, dont l'histoire interroge, puisque elle a été fondée initialement par le legs d'un aristocrate anglais au XIXe siècle, qui a légué une somme très importante au gouvernement des États-Unis pour promouvoir la science. Donc, c'est un petit peu paradoxal dans l'époque que nous vivons, où précisément c'est la science qui semble être visée par la politique conduite actuellement. C'est aussi une exception parce que les musées fédéraux aux États-Unis, par définition, représentent une toute petite minorité, même si ces musées sont très prestigieux.
Donc il y a à la fois un complexe d'enseignement, de recherche et de musées qui serait le plus grand au monde, d'ailleurs d'après le magazine Newsweek, 30 millions de visiteurs par an. Il y a plusieurs musées, donc le musée des Indiens américains par exemple, un musée national d'histoire et de culture afro-américaine. Qu'est-ce qui aujourd'hui incite Donald Trump à modifier la programmation, en tout cas par décret à dire qu'il va s'occuper de la programmation, pour le dire vite? Est-ce que certaines expositions en particulier n'ont pas eu l'heure de lui plaire?
Non, je ne pense pas. En tous les cas, certainement beaucoup moins que la programmation du Kennedy Center. Donc, je pense qu'il y a une approche globale, qu'on pourrait qualifier de gramscienne, hein, d'approche globalisante de l'idéologie par Donald Trump. Il n'y a évidemment aucun enjeu financier, puisque ce financement des institutions publiques dont nous parlons actuellement représente une somme infinitésimale. Donc, on est bien dans un combat idéologique qui n'est pas non plus sans faire se rappeler ce qui s'est passé il y a presque 30 ans à travers l'épisode des Culture Wars dans les années, la fin des années 1980, où on parlait à l'époque de politiquement correct et de lutte contre précisément cette approche. Aujourd'hui, ce qui est visé, c'est la question du DEAI, diversité, équité, inclusion, voire accessibilité pour certains. C'est ça que remet en cause fondamentalement Donald Trump. Autrement dit, il ne va pas peser sur le choix des expositions de type, entre guillemets, beaux-arts de l'institution, mais par contre, il va exercer une influence sans doute importante dans le domaine des expositions de type plus sociétal.
Voilà, il dit par exemple que toutes les expositions sur l'esclavage, sur la culture afro-américaine ou l'histoire des Indiens américains contribuent à monter les États-Unis les uns contre les autres, à l'inverse de Barack Obama qui pensait qu'il fallait montrer cette réalité sans phare. C'est ce qu'il avait dit quand il avait inauguré certains musées de l'institution. Là, on est en effet dans des visions politiques différentes. Ce qui est peut-être plus parlant, et vous l'avez mentionné très rapidement, Jean-Michel Taubelem, c'est ce qui s'est passé au Kennedy Center. Donc là, c'est un haut lieu de la mémoire de l'ancien président Kennedy, mais aussi de la musique classique, un grand bâtiment blanc sur les rives du fleuve Potomac à Washington, qui abrite l'Orchestre Symphonique National, l'Opéra National de Washington, 2 millions de visiteurs par an. Et entre un ballet classique inspiré de Crime et Châtiment et un concert symphonique sur le répertoire de Camille Saint-Saëns, il y a eu récemment un spectacle de drag queens. C'était l'année dernière et ça ne lui a pas plu. Il a, Donald Trump, pris la direction de cet établissement. Est-ce que c'était déjà arrivé dans l'histoire des États-Unis qu'un président s'octroie le poste de directeur d'un musée?
Non, bien sûr que non, à ma connaissance. Mais là, on est de nouveau dans un très grand paradoxe, puisque le vice-président des États-Unis d'Amérique vient donner des leçons de liberté d'expression en Europe, et nous sommes là clairement face à une attaque frontale contre la liberté d'expression artistique, la liberté de diffusion, je pense notamment à ce qui se passe dans les bibliothèques, et à la liberté de la recherche. Donc il y a quelque chose de tout à fait singulier, on est réellement dans la question des symboles, des valeurs. On n'est pas du tout dans une approche, encore une fois, financière, même si le combat a été mené et va continuer à l'être par Donald Trump, au détriment, si je puis dire, des grandes agences fédérales américaines. Autrement dit, ce qui est très, très important dans notre discussion, c'est la question du futur du National Endowment for the Arts, du National Endowment for the Humanities et de l'Institut pour les bibliothèques et les musées, qui sont dans le viseur de l'administration Trump. Et là, on est face à quelque chose de très, très important.
Avant Donald Trump, est-ce que des présidents, républicains ou démocrates d'ailleurs, se sont mêlés de programmation culturelle ou du fonctionnement des agences culturelles fédérales? Parce que, en réalité, des guerres culturelles, il y en a déjà eu aux États-Unis, notamment dans les années 80.
Oui, bien sûr, mais c'est précisément à cette époque que ces agences ont été sous le feu des critiques des membres du Congrès, et on a assisté à l'époque à des diminutions importantes de budget. Et là, on est au cœur de nos discussions, parce que c'est le Congrès qui va devoir se déterminer et il va devoir accepter ou non soit la diminution extrêmement importante des moyens de ces grandes agences fédérales, soit leur disparition pure et simple. Donc là, je pense qu'il faut rester prudent. Il y a des élections de mi-mandat qui ne sont pas très loin, et ce serait étonnant que le Congrès aille aussi loin.
Cette institution dont Donald Trump ne s'est pas contenté de dire on va regarder la programmation de plus près, il en a purement et simplement pris la direction. Donc le Kennedy Center a vu des résistances en interne, certains ont démissionné, comme la soprano Renée Fleming qui avait chanté lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Quelle résistance en général Donald Trump rencontre-t-il dans ces institutions sur lesquelles il ne se prive pas de donner son avis, et surtout ces institutions en tant que telles, jusqu'où elles pourraient résister? On n'est pas là dans le cas de figure de Harvard, par exemple, dont on parlait hier, qui a des fonds propres exceptionnels.
Non, leurs moyens, en effet, pour résister sont modestes, vous l'avez souligné. On a déjà sous les yeux le départ de directeurs ou de directrices d'institutions. Donc là, c'est une façon d'intimider, en effet, les personnels de ces institutions. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de comprendre quel va être le rôle de Darren Walker, qui est à la tête de la National Gallery et qui est l'ancien président de la Fondation Ford. Or, la Fondation Ford a été très active, notamment dans le soutien à des programmes d'inclusion. Donc, ça sera très intéressant de connaître sa réaction, y compris en tant que afro-américain, une figure absolument éminente dans la vie politique intellectuelle états-unienne, jusqu'où lui-même, effectivement, pourra-t-il, si je puis dire, entrer en résistance ou pas contre cette approche très, très agressive, en effet, vis-à-vis des grandes institutions culturelles fédérales.
Et cette Smithsonian Institution ne pourra pas résister trop longtemps, dit-on, puisque si on parle d'Harvard avec des frais de scolarité à $60,000 par an, à la Smithsonian Institution, l'entrée des musées est gratuite. Donc ils ont très peu de fonds propres. Il y a quelques musées aux États-Unis financés par le gouvernement fédéral. La National Gallery of Art, par exemple, qui est l'un des plus gros musées d'art ancien et moderne de Washington, qui a supprimé certains mots sur son site internet, diversité, équité, accès, inclusion, pour se mettre en conformité avec le décret signé par Donald Trump. Peut-être un tout petit mot là-dessus, Jean-Michel Taubelet. Est-ce qu'on est, comme on disait pour le cinéma tout à l'heure, face à des institutions qui font profil bas pour ensuite pouvoir mener les choses telles qu'ils l'entendent, une sorte d'affichage pour rassurer tout le monde, enfin rassurer le président états-unien et qu'on lui fiche la paix ensuite, ou il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer?
Non, je pense que vous avez raison. Les personnels vont essayer de donner des gages, de faire le dos rond le temps que la crise prenne fin, en tous les cas, on peut l'espérer. Après tout, mais ce sont des institutions quand même très très puissantes, très populaires, qui ont quand même aussi d'autres sources de revenus. Hein. Certes, pas les entrées, mais il y a les revenus des boutiques, des restaurants, il y a la collecte de fonds, le mécénat, les adhésions. Donc, je pense qu'il faut raison garder. Ces institutions vont survivre. On peut d'ailleurs se demander dans d'autres domaines, dans le domaine de la radio et de la télévision publique aussi, ce qui va se profiler. Donc, voyez bien qu'on a une approche extrêmement globale, extrêmement ambitieuse, qui effectivement soulève d'énormes questions. Mais la force de la culture aux États-Unis, c'est qu'elle ne dépend pas, en tout cas pour une grande part, du financement fédéral. Donc, elle va continuer à se développer.
C'est parfois une force, c'est parfois une faiblesse. Merci beaucoup Jean-Michel Taubelet. Votre ouvrage Musée et culture, le financement à l'américaine, a paru aux presses universitaires de Lyon. Je remercie aussi nos invités Chloé Delaporte et Nachidi Lerouaï, qui étaient présentes avec nous pour la première partie de cette émission. Chloé Delaporte, son ouvrage Géopolitique du cinéma, de la mondialisation à la plateformisation, a paru en 2023 aux éditions du Cavalier Bleu. Et merci à Ici Héro pour son accueil. Vous écoutez Culture Monde et c'est l'heure de la revue de presse internationale. Des agents de l'immigration attendent les patients dans les hôpitaux en République dominicaine, Mathilde Ansker.
Oui, le pays a mis en place 15 nouvelles mesures pour lutter contre l'immigration illégale, une immigration venue notamment d'Haïti. Les deux pays partagent une frontière terrestre. Le journal haïtien Le Nouvelliste va même jusqu'à parler d'une traque systématique des Haïtiens. Et parmi ces mesures, l'une d'elles concerne donc les hôpitaux. Le journal dominicain Diario Libre nous explique que désormais, il faudra présenter un document d'identité, une carte de travail et un justificatif de domicile à l'hôpital. Si la la personne est incapable de fournir ses documents, elle sera soignée puis expulsée. Une politique que détaille le directeur du Service national de santé dominicain dans une vidéo publiée par le site d'actualité Acento.
La dignidad humana en todo momento será respetada. La salud es un derecho.
La dignité humaine sera respectée à tout moment, dit-il. La santé est un droit universel, le service est garanti, il y a un protocole. Des agents de sécurité de chaque hôpital se mettent en contact avec les agents migratoires. L'agent migratoire fera le dossier pour vérifier si le patient est en situation irrégulière ou non. Que cela soit clair, la garantie des services essentiels et le respect de la dignité humaine sont des aspects principaux de ce protocole. Ce protocole est donc mis en application depuis lundi et le Diario Libre raconte que dès lundi, 87 Haïtiennes ont été expulsées, des femmes enceintes ou ayant récemment accouché. Le journal cite l'attente d'une femme détenue. « Nous ne sommes pas des chiens », dit-elle. De même, le Nouvelliste, média haïtien, donc interviewe un travailleur social pour qui expulser une mère et un nouveau-né après 3 jours est une violation des droits de l'homme. Il redoute que des personnes refusent de se soigner et d'ailleurs, le journal dominicain Listin Diario nous emmène dans une maternité de Santiago, au nord du pays. Le directeur raconte que dès lundi, le nombre d'arrivées de femmes haïtiennes a baissé. Il explique ensuite que ces femmes viennent plutôt au petit matin pour éviter de croiser les agents de l'immigration, ce qui crée ensuite un problème pour les médecins. Recevoir 5 appels d'urgence en pleine nuit, ce n'est pas pareil que d'en recevoir 25.
Les frontières nous emmènent aussi en Inde.
Grâce à un article d'Al Jazeera qui nous parle de pêcheurs indiens détenus au Pakistan, leur crime, avoir traversé sans le savoir une frontière maritime. Selon le ministre indien des Affaires étrangères, en mars dernier, 194 pêcheurs indiens étaient en prison au Pakistan. À l'inverse, 81 pêcheurs pakistanais étaient eux détenus en Inde, car le problème existe des deux côtés. Et pendant ce temps-là, eh bien, leurs familles sont criblées de dettes. L'article nous parle d'une femme de 60 ans. Son fils est parti en mer en décembre 2022. Depuis, il est en prison au Pakistan. Il avait à peine 17 ans lorsqu'il a été arrêté. C'est le seul qui gagnait de l'argent dans la famille. Sa mère est désormais endettée. Le gouvernement lui donne une aide financière de $3 par jour. Son fils gagnerait 2 fois plus s'il était libre. Mais alors pourquoi ces pêcheurs passent-ils autant de temps derrière les barreaux ? Al Jazeera interview un travailleur social qui explique que selon la loi pakistanaise, il ne devrait pas faire plus de 6 mois de prison. Sauf que les civils sont pris au milieu des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Leur peine est donc parfois rallongée sans qu'ils le sachent ou ne le comprennent.
Et pour conclure votre revue de presse internationale, Mathilde Ansker, vous parlez d'un professeur d'histoire dont la presse fait le portrait.
Il s'appelle Vitaly Dribnistia, il est ukrainien et depuis 2021, il s'évertue à apprendre l'histoire à des Russes. Le New York Times l'a rencontré. Tous les jours ou presque, le professeur se connecte sur Chatroulette, une plateforme qui met en lien des utilisateurs du monde entier. Lui veut donc apprendre aux Russes ce qu'est l'Ukraine et démonter la propagande du Kremlin. Sauf qu'après 3 ans de guerre, le professeur est usé, il s'énerve plus vite lors de ses appels et reconnaît même ne pas avoir beaucoup de succès pour changer l'état d'esprit des Russes. En revanche, ses vidéos sont publiées sur YouTube. 500 000 de personnes sont abonnées à sa chaîne, dont beaucoup d'Ukrainiens. Et le professeur se rend aujourd'hui compte que c'est ça qui est important. Éduquer des millions d'Ukrainiens qui ont appris l'histoire sous la période soviétique et veulent maintenant en savoir plus. Et il sait de quoi il parle. Lui-même est entré à la fac pendant l'URSS. Il en est sorti en 1991. Entre-temps, le paysage idéologique avait totalement changé. Interrogé à la fin de l'article, un historien ukrainien assure que tout ce travail n'est pas vain. Si personne ne remet les pendules à l'heure, alors Poutine gagne, dit-il. Son travail permet de restaurer notre dignité, prouver que l'Ukraine en tant que nation existe. Enfin, pour conclure, si vous avez des questions sur l'actualité internationale, vous pouvez, comme toujours, nous écrire. Nous répondrons à vos questions dans la chronique interactive du samedi. Écrivez-nous donc à l'adresse fcrdpi@radiofrance.com.
Merci beaucoup, Mathilde Ansker. Quant à nous, demain, dans Culture Monde, pour le dernier épisode de notre série sur la puissance douce américaine, la fin d'un rêve américain. Nous parlerons de l'aide au développement, le grand repli sur soi opéré par les États-Unis de Donald Trump. Et nous en parlerons notamment avec Pierre Micheletti, ancien président d'Action contre la faim et de Médecins du Monde, et Gabriel Port, spécialiste doctorat à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste de l'assistance américaine à l'Ukraine. Dans un instant, les Midi de Culture.